CO2 mon amour, avec Mitsubishi Electric. Équipement éco-responsable pour la vidéoprojection et l'impression photo. Et aussi sur mitsubishielectric.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller vite avec Pierrick Monsigny et Rémi Quincy à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fabrice Lègle qui cette semaine réalise l'émission. Allez, une petite humeur, coup de froid cette semaine. Bah oui, l'hiver est revenu, hein, on avait fini par l'oublier. Et pourtant, de l'autre côté de la Méditerranée, un dictateur fait ses valises, prend l'avion. On lui pardonnera d'augmenter son empreinte carbone. Et ça vous donne tout de suite un petit air de printemps. Alors voyez ces oasis de liberté hein, qui éclosent à Tunis et ailleurs. Journaux, radios, manifestations, chacun a son mot à dire. Sans crainte de passer par la case prison. Donc bravo à nos voisins tunisiens qui cultiveront sans renfort de CRS français une démocratie. Démocratie, on l'espère, sans délit d'opinion, ni grenade lacrymogène. Eh oui, c'est comme ça qu'on l'aime, cette démocratie. Allez, tenez, on va partir maintenant sous les tropiques en compagnie du magazine New Scientist, pardon, à l'occasion d'un article intitulé « Comment les envahisseurs pourraient bien sauver la Terre ?» Alors, rien à voir avec les petits hommes verts et autres handicapés de l'auriculaire du regretté David Vincent. Non. On est sur l'île de Porto Rico. Et le botaniste Ariel Lugo nous guide dans la forêt tropicale. Vous imaginez l'air chaud et humide qui vous saute à la figure. Le sac à quête de partout, des plantes chargées de fruits interdits qui vous barrent le chemin. Bienvenue dans ce petit coin de paradis, préservé des invasions humaines, Christophe Colomb et toute la clique. Eh bien, détrompez-vous, car ils n'en ont fait qu'une bouchée de la forêt primaire, nos conquistadors, avec leurs plantations et leurs troupeaux. Jusqu'au déclin de l'agriculture, au siècle dernier, qui laisse un peu partout des sols déboisés, délavés, trop secs, trop chauds pour les plantes indigènes. Et d'après notre scientifique, ce sont des variétés venues d'ailleurs au hasard des voyages en bateau et des graines portées par les oiseaux qui font alors renaître la forêt tropicale de Porto Rico. Le tulipier du Gabon ou le faux mimosa par exemple sont mieux adaptés que les espèces indigènes aux habitats dégradés hérités de l'agriculture intensive. Alors en se développant, les envahisseurs offrent le gîte et le couvert aux espèces indigènes qui à leur tour reconquièrent le terrain, la boucle est bouclée et tout est bien qui finit mieux puisque les nouvelles forêt de Porto Rico abrite a priori un plus grand nombre d'espèces que les forêts d'origine. Bon, alors ce qui est vrai pour le tulipier du Gabon n'est pas forcément, on va dire, pour la perche du Nil, hein, qui a fait, on le sait, une véritable opéa sur le lac Victoria en Afrique de l'Est, ni pour la grenouille taureau que vous connaissez, la coccinelle d'Asie, le frelon asiatique, la salicaire commune, la jussie à grandes fleurs, j'en passe et des meilleurs, déclarés persona non grata un peu partout sur la planète. On serait pourtant tenté de croire, comme l'affirme Ariel Lugo, que tous ces envahisseurs ne sont pas aussi nuisibles qu'on le dit et qu'ils pourraient nous être utiles quand il s'agira de réparer les dégâts causés par l'espèce la plus envahissante de toutes. Vous l'avez compris, c'est la nôtre. Alors on se pose la question. Dis papa, c'est quand que les envahisseurs ils sauveront la planète? On pourrait faire quelque chose? Écoute, mange ta soupe hein, et puis on en causera après.
C'est l'illustration dans un secteur industriel, celui du secteur photovoltaïque.
Alors pardonnez-moi parce que là effectivement c'est moi qui ai fait un mauvais signe. C'était une remontée musicale que je souhaitais et que je vous donne tout de suite le menu. Nous allons parler avec Jean-Marie Pelt du Mékong, nous serons sur ce grand fleuve. Et puis cette émission va être consacrée aux réponses à vos questions. Réponse à vos questions, ça va être pourquoi l'argent que vous déposez sur un compte bancaire pollue-t-il davantage qu'un 4x4 mal réglé? Eh oui, bonne question. Pourquoi autant de panneaux publicitaires et surtout de panneaux illégaux dans le paysage? Et c'est là que nous arrivons, j'y étais un petit peu vite, sur notre actualité. On va parler d'industrie photovoltaïque. Pourquoi? Benoît Pradry est chef d'entreprise dans les énergies renouvelables. Il est conseiller du commerce extérieur aussi. Et il a assisté mi-janvier à Toulouse-Blagnac au discours des vœux du président de la République. public qu'il adressait aux acteurs économiques de la nation. Bon, avec un discours tout à fait offensif, il faut plus d'industrie française, plus d'innovation, plus d'entrepreneurs. Le traditionnel, il faut libérer les forces vives, couplé aussi sur l'industrie donc allemande tout à fait vigoureuse également. Mais donc un petit bémol de votre part, Benoît Padry, donc enregistré hier.
C'est l'illustration dans un secteur industriel, celui du secteur photovoltaïque, où la veille même de ce discours à Toulouse, la commission Charpin-Étrinque qui a été mise en place en décembre suite au moratoire décrété le 9 décembre sur le photovoltaïque, cette commission est en train de se servir d'un rapport de l'inspection générale des finances qui raconte des choses qui sont fausses, des choses qui c'est de la vraie désinformation. Et on est en train d'organiser, le gouvernement est en train d'organiser la casse de la jeune filière de l'industrie photovoltaïque qui a démarré il y a 2-3 ans. À part être conseiller commerce extérieur, je suis aussi chef d'entreprise et avec une toute petite entreprise. Et on est tous avec des problèmes de trésorerie dans les 2-3 mois parce qu'il n'y a plus un banquier qui finance, il n'y a plus un client qui veut acheter. Et puis EDF n'a plus le droit, d'après le moratoire, de traiter les demandes de contrats d'achat.
Et on a vu aussi donc des villes qui se désengagent actuellement, par exemple telle la ville de Nantes qui se pose des questions sur ce domaine. Ça représente combien d'emplois aujourd'hui, le photovoltaïque et les énergies renouvelables ?
D'après le syndicat des énergies renouvelables, ça représente entre 15 et 20 000 emplois, ce qui n'est pas rien. 15 et 20 000 emplois, c'est plus que ce qu'emploie Areva dans sa branche énergie nucléaire. Et pour donner une comparaison, parce qu'en fait, moi, mon coup de gueule, si vous voulez, il a été du côté économique. Le gouvernement est en train de dire qu'il faut développer une filière compétitive du photovoltaïque en France, mais en disant ça, il est en train de la casser. Et si on veut vraiment être compétitif par rapport à notre voisin et ami l'Allemagne, Angela Merkel, qui visiblement ne fait pas de politique avec les énergies renouvelables, on ne peut pas la taxer d'être à gauche, a mis en place en août dernier un plan de développement de 5 qui est 10 fois supérieur au plan français. Alors moi, j'interroge le gouvernement, j'interroge pas forcément d'ailleurs le ministère de l'écologie, j'interroge d'ailleurs plutôt le ministère de l'Industrie et de l'Économie et des Finances.
Le ministère de l'Écologie n'est plus concerné par l'énergie. On lui a retiré de toute façon l'énergie.
De toute façon, on lui a retiré l'énergie. Mais si le gouvernement, si le patronat est en train de dire qu'il faut rattraper l'Allemagne, on est en train de perdre des places, alors comment on peut laisser une industrie qui en Allemagne emploie 200 000 personnes et dans 10 ans va en employer 300 000, 400 000, 500 000, puisqu'ils ont des objectifs qui sont de 50 000 mégawatts. L'Allemagne a prévu d'installer en 2020 presque la puissance du parc nucléaire français en énergie photovoltaïque. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte des rapports de force. Donc comment voulez-vous que nous, Français, industriels français, essayons de travailler sur les résultats du Grenelle avec un objectif de 5000 MW, 5400 MW pour être précis. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif vis-à-vis de l'Allemagne ?
Oui, mais donc, on a aujourd'hui, Benoît Padry, donc des grands corps d'État qui, en France, sont pour vraiment le nucléaire. C'est clairement affiché. Est-ce que là aussi, c'est une opposition ? On va vous dire que non, énergie renouvelable nucléaire, ça ne va pas. On va vous dire aussi qu'il y a eu un effet d'aubaine sur le solaire et qu'il fallait arrêter cela. Et vous, vous pointez quand même, on va dire, le double discours.
Écoutez, soit on parle d'entreprise, soit on parle de politique énergétique. La politique énergétique française, elle est unique au monde. Il n'y a qu'en France où les gens du nucléaire ont l'impression que développer du photovoltaïque, ça les concurrence. Enfin, l'Allemagne a des centrales nucléaires. Je crois que 35% de son électricité consommée provient de centrales nucléaires. Donc en Allemagne, ça ne les choque pas du tout de dire qu'il y a une industrie du photovoltaïque, et d'ailleurs des éoliennes aussi, qu'il faut développer absolument parce qu'il faut prendre des marchés, parce que c'est une industrie absolument indispensable pour le 21e siècle. Et puis, il y a des centrales nucléaires. Mais on peut faire du...
Et ils ont d'ailleurs aussi, petite parenthèse, ils ont aussi beaucoup de charbon. C'est encore autre chose.
Et oui. Ils ont aussi beaucoup de charbon, on est bien d'accord. Mais il n'y a qu'en France, si vous voulez, où, comme vous parliez des corps d'État et de l'élite, de ceux qui prennent des décisions dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire le corps des mines, il n'y a qu'en France où ces gens-là sont obligés de dire « Ah, vous faites du solaire, donc vous êtes un écolo, donc vous votez les verts ». Enfin, le sujet n'est pas là du tout, en tout cas mon propos n'est pas là du tout. On est en face d'une industrie qui est en train de se monter, qui doit être compétitive sur la scène internationale.
Et qui est en train d'être sciée à la base pendant qu'on est en train de la monter, c'est ce que vous nous dites.
Ils veulent des quotas, c'est-à-dire pas plus de 500 mégawatts par an, alors que l'Allemagne en a fait 9000 l'année dernière. Comment voulez-vous qu'on ait l'effet de volume, l'effet de masse ?
Ça veut donc dire que l'on continuera à acheter à ce moment-là du solaire, du photovoltaïque aux Allemands, aux Japonais, aux Américains, c'est ça un peu l'idée ?
Si le gouvernement n'est pas capable d'avoir une politique industrielle qui donne le là sur 10 ans ou 20 ans, parce qu'on a besoin de cet horizon pour investir. On ne peut pas investir quand les lois changent comme en 2010.
Bien sûr.
Ils nous ont changé 10 ou 12 fois les conditions de fonctionnement du photovoltaïque. C'est complètement impossible de piloter les investissements. Là, il y a vraiment un déficit de politique industrielle et on nous raconte des cracks en nous disant il faut être compétitif par rapport à l'Allemagne. On a déjà un rapport de 1 à 10 sur les emplois en termes de recherche, d'innovation, d'emploi, de formation professionnelle, de développement de produits nouveaux, on est complètement à la ramasse.
Petit coup de gueule donc d'un chef d'entreprise, Benoît Pradery, et cette fois-ci en direct pour continuer ce décryptage de cette actualité, Arnaud Gossemant, qui est spécialisé dans l'environnement, ancien porte-parole de France Nature Environnement, qui s'intéresse de près à ces sujets. Bonjour Arnaud Gossemant.
Bonjour Denis.
Alors donc vous avez entendu Benoît Pradery, quel va être le calendrier, en fait, la suite pour ces gens-là?
On va être vite fixé, puisque le 11 février, le rapport Charpin devrait être mis sur la table des négociations. Vous savez qu'il y a des négociations en cours entre les organisations professionnelles et l'État. Et le 11 février, donc Jean-Michel Chapin, qui pilote tout ça, devrait remettre son rapport. Et en fait, dans ce rapport, on va avoir une présentation des règles, des nouveaux tarifs, des nouvelles procédures qui vont être instituées par le gouvernement en février. Donc d'ici très 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 peu de temps, le photovoltaïque saura s'il a oui ou non un avenir en France.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge réellement ?
Permettez-moi de pousser moi aussi un petit coup de gueule, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de mobilisation, malheureusement, ni médiatique, ni politique, ni citoyenne sur les énergies renouvelables, qui sont pourtant l'objet d'une campagne de dénigrement extrêmement puissante, comme Benoît Pradery l'a fort justement souligné. On est en train de louper le virage des renouvelables, c'est donc un échec économique, ce sera probablement un échec écologique également. Vous avez une campagne Areva qui envahit les écrans et les sites internet en ce moment, et cette campagne de dénigrement pour expliquer que les gens qui se lancent dans le photovoltaïque ne sont pas des écologistes mais de vulgaires spéculateurs, que les panneaux solaires ne servent à rien, etc. Mais en même temps, on a une responsabilité collective, c'est pas que le gouvernement. Aujourd'hui, on est beaucoup trop nombreux à se passionner pour la bataille des primaires, hein,
oui,
plutôt que
entre
pour la
Eva
bataille
Jolie,
de l'énergie.
Nicolas Hulot, etc., entre autres. Oui.
Je ne dis pas que c'est pas important, mais je pense que la bataille des réseaux, titre du dernier rapport de Greenpeace Europe que je vous recommande chaudement,
okay,
est beaucoup
bien.
Plus importante encore que des problèmes de personnes, surtout aussi longtemps avant l'échéance. Donc là, comme j'entendais en début d'émission que vous aviez de plus en plus d'auditeurs, Denis, je m'en félicite, j'espère effectivement que ceux-ci vont s'intéresser à ce sujet, s'en saisir, interpeller les politiques. Il y a des parlementaires qui veulent bouger, hein. Il y en a certains qui appellent, qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, notamment contre la désinformation.
Et si vous à droite comme à gauche d'ailleurs.
Mais tout à fait, à droite comme à gauche, des gens qui se disent ce n'est pas possible de continuer ainsi. Ils sont minoritaires aujourd'hui, il faut être très très clair, hein. Mais on peut quand même les faire bouger. C'est la seule manière de faire bouger les choses. Si le gouvernement sent qu'il n'y a pas de pression au mois de février, les textes qui sortiront, malheureusement, seront composés de quotas, de procédures supplémentaires. Bref, on va créer toute une usine à gaz juridique qui risque d'asphyxier en réalité les énergies renouvelables. C'est très très grave.
Hein. Oui, une usine à gaz, donc énergie fossile et carbone. Merci beaucoup, cher Arnaud Gossemant, et puis donc à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.
À bientôt.
Du côté de la Belgique, je ne pense pas qu'on ait forcément toujours de gouvernement, mais ils ont en tout cas des groupes. Eux, ils sont belges, ils s'appellent Applause. About the weather, everything's fine. I hope you're better than to be alright. Though we had storms together, things we have won forever. About the romance of our sorrow. Circle of tomorrow's promises for my shadow, loneliness for my echo. I hope you're better than to be just fine. Out of context, we'd be strangers. Making plans for our own lives, raising hands for the same rights. But I wonder every time it rains, is this the only way to feel the same? Why is our love collapsing? You're the one I've been kissing. I hope you're better. Bella, très agréable, choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice. Donc, bienvenue dans CO2 Mon Amour, avec les thèmes principaux, on va dire que ça va être l'argent des banques et la pollution, et aussi panneaux publicitaires, donc réponse à vos questions. Mais auparavant, on va retrouver avec grand plaisir Jean-Marie Pelt avec un exemple de tension sur le partage de l'eau en Asie. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va s'intéresser à un immense fleuve qui s'appelle le Mékong. Alors, ce cher Mékong, il arrose combien de pays ?
Il arrose 6 pays. Il a 4909 km de long, ce qui est tout de même très important pour un fleuve que nous considérerions comme un fleuve secondaire par rapport au Nil ou à l'Amazonie, naturellement. Alors, il arrose la Chine sur près de la moitié de sa longueur en amont, puis ensuite la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos. Alors, c'est très compliqué, la gestion de ce fleuve, parce que, évidemment, les Chinois sont maîtres du jeu.
Oui.
Il prend sa source au Tibet, et les Chinois font des barrages. Ils en ont construit 4. Ils sont en train d'en construire 4 autres. Ça fera 8 barrages. Et vous aurez compris que pour remplir les barrages, ben, il faut stocker l'eau. Et qu'à ce moment-là, en aval, il n'y a plus d'eau. Et la grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les pays qui sont en aval et qui risquent d'être privés d'eau.
Donc des tensions avec quel autre pays ? Donc on a la Birmanie, la Thaïlande ?
Oui, on a la Birmanie, on a la Thaïlande, on a le Cambodge, on a le Laos, on a le Vietnam, tous ces pays qui sont donc en aval. Alors la Chine n'a pas voulu participer à la commission du Mékong, qui a pour objectif de partager la ressource en eau entre les différents pays. Mais vous savez que la Chine insiste toujours beaucoup sur sa souveraineté nationale et n'aime pas se lier par des accords internationaux qui pourraient lui être défavorables.
Ce serait sur le climat ou autre chose.
C'est pareil, c'est la même.
Mais non, mais c'est la même philosophie.
Oui, oui, c'est
droit de l'homme ou bien autre. Peu importe.
C'est une autre philosophie. Ouais. Alors, en aval, ils sont très embêtés. Parce que la pêche se porte au plus mal, il y avait des gros poissons, il y avait le poisson chat, un poisson de 350 kilos. Alors j'avais noté, parce que j'avais trouvé ça très drôle, il grossit 10 kilos par an, c'est remarquable.
Bah, c'est, oui.
Il y a une anguille qui fait plusieurs mètres de long.
Ce n'est pas votre cas, Jean-Marie.
Non, moi c'est un peu moins.
Voilà.
Il y a une anguille qui fait plusieurs mètres de long,
oui.
Une immense anguille. Il y a une raie d'eau douce. Il pèse 500 kilos, vous voyez, il y a comme du gros poisson.
Il y a du gros monde, oui.
Alors les paysans se plaignent, les pêcheurs se plaignent, ils n'ont plus de poisson. Et les paysans se plaignent parce qu'ils sont au niveau des rizières tout à fait, alors en aval cette fois-ci, dans l'immense delta du Mékong au Vietnam, et l'eau n'est plus suffisante pour alimenter les rizières.
Alors maintenant Jean-Marie, que peut-on faire ?
Alors ici, il faut mettre en scène un autre acteur qui est l'ONU. L'ONU a le souci de faire que les pays qui sont parties prenantes pour un même fleuve s'arrangent entre eux. Pour l'Europe, il y a un exemple remarquable, c'est le Rhin, où il y a la commission du Rhin qui gère parfaitement le Rhin. Et les 6 pays limitrophes du Rhin travaillent en bonne intelligence entre eux.
Oui.
Et quand il y a eu la grande catastrophe à la Toussaint 86 à Bâle, où le Rhin a été pollué, ça a donné un coup de fouet à la coopération. Et on a dit, pour l'an 2000, il faudra que dans le Rhin, il y ait de nouveau des saumons. Ben ça a marché. Voilà, alors ça c'est un modèle. Pour un coup, l'Europe a un modèle à proposer.
Oui.
Bon, mais là, ça ne marche pas bien le modèle. Alors, la Chine, bon, renacle, mais l'ONU est bonne dans ce domaine-là. L'ONU a évité des affrontements en ce qui concerne l'eau, notamment entre le Soudan et l'Égypte pour le Nil, notamment entre la Turquie et l'Irak pour le Tigre et l'Euphrate, notamment pour le Jourdain. L'ONU a désamorcé des conflits et a empêché des guerres de l'eau. Alors évidemment, on dit l'ONU c'est un machin, ça sert à rien. Oui, mais si elle n'était pas là, ça serait pire. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Parce qu'on aurait pu un endroit où on se parlerait. Et l'ONU c'est quand même le lieu où les peuples de la terre entière se rencontrent et se parlent. Donc je voulais donner un coup de chapeau à l'ONU à propos de ce projet parce que je sais qu'elle est très impliquée dans la solution de ce problème-là.
Combien il y a d'habitants sur le bassin du Mékong ?
60 millions. Il y a 60 millions de personnes, donc la population de la France, qui dépendent exclusivement des apports de ce grand fleuve.
Merci Jean-Marie Pell de nous avoir éclairé donc sur le Mékong et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et nous passons maintenant donc à cette séquence, on va dire, question de votre part, question donc des auditeurs. En fait, on les compile, vous voyez, il y en a un certain nombre comme ça qui arrivent au 01 56 40 40 35 et puis quand on en a un certain nombre qui font sens parce qu'on voit qu'il y en a, voilà, c'est un sujet de préoccupation, eh ben, on y va, on essaye de trouver les réponses. Allez, 01 56 40 40 35.
À toute l'équipe de CO2. J'ai entendu dire que l'argent que l'on dépose en banque pouvait avoir des conséquences néfastes pour l'environnement. Je ne comprends pas très bien pourquoi et comme je suis sensible au sujet de l'environnement, j'aimerais en savoir plus. Merci pour tout. Au revoir.
Valérie qui nous appelle de la région bordelaise. Alors, nous allons retrouver un garçon qui s'appelle Stanislas Dupré qui vient de sortir un ouvrage aux éditions Nil qui s'appelle « Que font-ils de notre argent ?» Stanislas Dupré est directeur général d'Utopie. Alors Utopie, c'est un cabinet de conseil, un think tank qui est spécialisé dans le développement durable. Et le bandeau de cet ouvrage, c'est quand on dépose 10 000 euros sur son compte, on peut polluer davantage qu'un 4x4. Alors donc c'est une accroche un peu provocatrice. Mais qu'est-ce que l'on peut dire donc sur ce sujet? Est-ce que c'est vrai ça?
Ah oui, on imagine a priori que quand on met de l'argent dans une banque, bah, il reste dans le coffre. En fait, il ne reste pas dans le coffre. Vous avez l'argent qui part financer l'économie. Alors, un petit tiers va financer l'économie locale, le crédit immobilier de votre voisin, la voiture de votre voisine, la petite entreprise du coin. En tout cas, la plupart des banques utilisent aussi cet argent pour financer des multinationales cotées. Donc pas mal de projets polluants parmi ces entreprises. Mmh. Et puis, joue une partie de l'argent sur les marchés financiers et sur les produits dérivés. Globalement, on a un droit de vote, une sorte de droit de vote avec notre argent, qui est finalement assez peu utilisé et qui est très structurant sur l'économie. Un des points dans le livre, c'est l'aspect polluant de notre épargne. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'économie verte de demain est en besoin criant de financement, que ces financements manquent, les banques ne l'apportent pas de façon spontanée et qu'en tant qu'épargnant ou simplement en tant que client d'une banque, on a un rôle à jouer dans cette équation-là.
Que peut-on faire les uns les autres, Stanislas Dupré? Parce que vous essayez de faire quand même dans ce livre aussi le lien entre l'axe du climat et puis le côté consumériste. Ce n'est pas toujours évident.
Oui. Alors effectivement, je pense qu'il y a une époque qui se termine, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les banques sont un petit peu se sont développées sur l'idée que les clients allaient leur faire une confiance aveugle. Vous donnez l'argent à votre banquier.
C'est fini, ça.
Bah, c'est un petit peu fini avec la crise, sauf que les banques ne se sont pas vraiment mis cette idée-là dans la tête. Mmh. C'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent dans une banque, le banquier s'autorise toujours à piocher dans votre compte pour vous prélever tel ou tel frais sans vous demander votre avis. À titre d'information, même le fisc ne se permet pas de faire ça. Mmh. Donc aujourd'hui, les clients continuent à donner ce droit-là à leur banque. Je pense qu'avec la crise, cette époque-là est terminée. Mais les banques mettent encore beaucoup de temps à s'adapter, à la fois dans la façon dont elles commercialisent les produits et dans les offres qu'elles font à leurs clients.
C'est-à-dire que l'argent que l'on met va sur les géants industriels les plus polluants, qui occupent la tête des classements boursiers, plutôt que sur des acteurs d'une nouvelle économie verte?
Très clairement. Si vous regardez aujourd'hui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui est plutôt considérée comme étant proche des pétroliers, qui considère qu'aujourd'hui, il faudrait investir sur les 40 prochaines années à peu près l'équivalent de 7 fois le plan Marshall en effort financier annuel. Ça devrait être investi dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans de l'innovation radicale dans certains secteurs. Et aujourd'hui, cet argent manque cruellement. Les multinationales n'investissent pas spontanément et les banques continuent à financer les acteurs de l'économie d'hier, principalement parce qu'ils occupent la tête des classements boursiers. Et finalement, il y a une grosse déconnexion entre la façon dont les banques investissent leur argent et notre argent, et les objectifs affichés par les autorités en matière climatique notamment.
Vous nous dites dans ce livre que cette épargne est évidemment un levier et que l'épargne est aussi un choix politique. Ça me rappelle aussi Pierre Rabhi qui disait que la manière de s'alimenter était aussi un choix politique. Mais donc consommer, avoir de l'épargne, c'est un choix politique aujourd'hui.
Très clairement. Alors aujourd'hui, vous avez les Français qui épargnent à peu près 16% de leurs revenus. C'est un record en Europe et pratiquement dans le monde. Il y a deux choses qu'on regarde quand on place son argent, c'est combien ça va me rapporter. Il pourrait y avoir aussi cette question de vote. Clairement, si on regarde sur la question du climat, aujourd'hui, la consommation moyenne d'un Français, ça va émettre à peu près 10 tonnes de CO2 par an. L'épargne d'un Français moyen, ça sera à peu près 15 tonnes, dans la mesure où on finance beaucoup plus que l'économie dans laquelle on vit. On finance aussi beaucoup d'entreprises qui ont des activités à l'étranger, par exemple.
Alors, vous avez décortiqué un certain nombre de banques. Là, je vois le Crédit Agricole avec le secteur pétrolier, hein, qui, c'est ce qui finance principalement beaucoup plus que l'agriculture aujourd'hui.
Bah, clairement, c'est-à-dire que le secteur pétrolier occupe une place de choix à la bourse. À titre d'exemple, Total, ça pèse 13% de l'indice CAC 40. Alors que les autres entreprises au maximum vont peser 2-3%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'épargne est captée et investie en bourse. Et l'investissement en bourse profite principalement au secteur pétrolier. Et résultat, en fait, le système de collecte de l'épargne est une espèce de machine à capter notre argent et à le diriger vers l'économie.
Et indirectement, ça va se retrouver dans les schistes bitumineux de l'Alberta ou d'ailleurs.
Alors, c'est l'exemple que je prends dans le livre, presque un petit peu caricatural, parce que bien évidemment, vous avez des investissements dans beaucoup d'autres secteurs. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, là où le secteur pétrolier met beaucoup dans ses publicités les énergies renouvelables, on s'aperçoit que quasiment tous les investissements des compagnies pétrolières se fait dans l'extraction pétrolière et que les sables bitumineux très polluants occupent une place infiniment plus grande que les énergies renouvelables, par exemple, dans leur portefeuille.
Quelle solution j'ai ? Qu'est-ce que je fais ? Je change de banque ? Je quitte la Générale comme vous l'avez fait ? BNP Paribas ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ?
Alors aujourd'hui, vous avez deux types de banques. Vous avez les banques, je dirais, qui investissent dans l'économie que je décris là. Les grandes banques, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale. Et puis vous avez des banques qui n'investissent que dans l'économie locale ou que vers les particuliers. Ça va être le cas de la Poste, par exemple, qui, de fait, pollue peu. C'est pas non plus... Alors, moi, je conseille pas, évidemment, de supprimer toutes les grandes banques qui financent l'industrie pour aller vers les banques qui ne financent que les particuliers, parce que ça résoudrait pas le problème. En revanche, il n'existe pas aujourd'hui de banques qui financent les gros industriels, mais avec une politique environnementale qui, vraiment, pousserait de l'argent sur les nouvelles technologies. Les seules choses qui existent, c'est des banques un petit peu alternatives, type la NEF ou le crédit coopératif, qui ont un levier d'action très faible dans la mesure où elles sont infimes, leur taille est infime par rapport à BNP Paribas, par exemple.
Stanislas Dupré, comment inciter les banques à changer ? Vous dites que la solution ne pourra venir que de l'extérieur. Il y a quand même des règles qui sont intéressantes. Hein. Vous les décortiquez bien. Quand un secteur d'activité commence à se mettre à dos des ONG, la presse emboîte le pas un ou deux ans après. L'opinion publique va réagir 2 à 4 ans plus tard. Et les décisions politiques finissent par arriver au bout de 4-5 ans.
Voilà. Alors aujourd'hui, quand on regarde le secteur financier, même après la crise, on se dit que les choses vont vraiment avoir du mal à bouger. C'est un lobby très, très puissant. Et quand on regarde les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, on s'aperçoit que les banques sont un des secteurs les plus, je dirais, attentistes. Par contre, effectivement, on voit qu'il y a toute une machine qui s'est déclenchée autour des banques depuis la crise, qu'elles commencent à se mettre à dos les ONG environnementales, les associations de consommateurs, et que finalement, il y a aujourd'hui une sorte de rupture du contrat social qui lie les banques à l'État et aux citoyens, et que cette situation ne va pas pouvoir perdurer.
Alors, comme vous n'allez pas vous faire embaucher tout de suite dans une banque, assurer la traçabilité de l'épargne, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Alors ça, c'est des choses où on a déjà travaillé avec certaines banques. Les caisses d'épargne ont testé ça, des assureurs sont en train de tester ça aujourd'hui. Ça consisterait un petit peu comme on l'a fait après la crise de la vache folle, à savoir ce qu'on a dans son assiette. C'est-à-dire, si je donne de l'argent à la banque, où va cet argent ? Et que la banque nous donne le minimum d'informations pour pouvoir remonter jusqu'à la source. Ce qui, entre parenthèses, si ça avait été fait au moment de la crise des subprimes, ça aurait évité bien des déboires aux banques.
Et le conseiller clientèle ?
Alors, le conseiller clientèle, aujourd'hui, il a un statut un petit peu bizarre. C'est-à-dire que ce qui est vendu au client, c'est un peu « je suis le médecin de votre épargne, faites-moi confiance, confiez-moi votre argent, je le placerai pour votre bien ». Dans la réalité, il propose en général des produits maison qui ne sont pas forcément les plus adaptés à chaque type de client. Il tient plus d'un concessionnaire automobile que d'un médecin. Donc moi, l'élément que je propose là, c'est soit d'aligner son système de rémunération sur le fait d'être un médecin, c'est-à-dire pas lui donner des objectifs de vente de tel ou tel produit pour les vendre de façon forcée, soit afficher clairement cette situation vis-à-vis du client. Et depuis que j'ai sorti ce livre, un peu par hasard, j'ai l'impression, une banque a commencé à faire de la publicité sur le fait que ses commerciaux n'étaient pas objectivés sur la vente de tel ou tel produit. Donc les choses, ça montre que les choses avancent finalement.
Bon, c'est très lourd. On sait que c'est très lourd. Ce système-là donc est nuisible aujourd'hui pour l'écologie, pour l'environnement, pour la planète. Ça va être quoi pour vous ? Ça va être à la fois l'opinion publique, ça va être le fait que l'on va réfléchir avant de déposer son argent, interroger davantage son banquier.
Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que si vous voulez, si vous regardez en termes de consommation, vous avez globalement, allez, entre 3, 4, 5, 10% des consommateurs qui sont mobilisés sur des questions vertes. Donc finalement, cette mobilisation sera, je pense, assez lente chez les consommateurs. En revanche, ce qu'on va trouver, c'est un manque de confiance vis-à-vis du banquier, qui fait que nécessairement, on va devoir s'intéresser à où va son argent, même si c'est pour des questions de rentabilité. On l'a vu après la crise financière, la vente de produits d'investissement socialement responsable a été multipliée. Et l'autre aspect, c'est qu'avec l'évolution des systèmes de retraite, la question de l'épargne va devenir de plus en plus stratégique pour les consommateurs. et on pourra plus donner son argent comme ça à son banquier en se disant, bon, de toute façon, je peux toujours compter sur les systèmes de retraite publics.
Alors, rappelez-nous, parce que vous avez travaillé évidemment avec les Amis de la Terre, qui ont fait un boulot absolument formidable, hein, donc cette ONG depuis déjà de nombreuses années sur ce thème. Quels sont les secteurs, en fait, qui continuent, qui perdurent et qui restent donc les secteurs clés, polluants, aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je dirais que tous les enjeux stratégiques se situent dans le secteur de l'énergie. Alors l'énergie à prendre au sens large, hein, aussi bien les producteurs d'électricité que les compagnies pétrolières et à l'inverse les producteurs d'énergie renouvelable. Vous avez aussi des gros enjeux dans le secteur du transport, savoir est-ce qu'on va aller financer des fabricants automobiles et si oui lesquels, et quelles sommes vont être investies dans les infrastructures publiques, et puis le secteur du bâtiment. Et je dirais qu'il y a une bonne partie de l'argent des banques qui est investi dans ces différents secteurs. La question, c'est quels acteurs on va financer dans ces secteurs-là et quelles technologies.
Dites-nous ce qui vous rend optimiste, parce que ce livre-là, en fait, il n'aurait pas pu exister il y a encore 5-10 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend optimiste?
Ce qui me rend optimiste, c'est le fait que je pense qu'on est arrivé à un point de basculement, ce que vous citiez, c'est-à-dire le fait que les ONG se mobilisent, la presse commence à s'intéresser au sujet, vous avez plusieurs types d'acteurs avec des motivations différentes qui pointent vers les mêmes sujets. Et je pense qu'à un moment, les choses se cristallisent et ça bascule.
Et le fameux gaz de schiste dont on a parlé il y a quelques semaines, bon, non, il y a 2 semaines, et ben ça aussi, ça va susciter quelques convoitises, ça va intéresser les banques, dites donc. Alors, le site des Amis de la Terre, vous le retrouverez sur le site de CO2 Mon Amour. Le film « Moi, la finance et le développement durable », très intéressant, s'il passe dans votre coin, le Crédit Coopératif, la Nef, qui eux sont déjà dans ce secteur-là. Alternative économique aussi, avec un numéro qui s'appelle « Les placements éthiques et solidaires ». Et puis, se renseigner, quoi, aller trouver son banquier et discuter avec lui et même peut-être lui apprendre des choses. Voilà. Nous allons passer à notre second sujet dans quelques instants, ce sera les panneaux publicitaires. Auparavant, c'est Féloche qui nous chante « Reste avec moi ». C'est d'ailleurs un peu un cri d'une banque, ça nous dit très souvent « Reste avec moi ». Oui, oui.
3 qu'ait pris mon cœur de son regard, une larme de glace. Oh, oh, oh. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi, la 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 la. Reste avec moi, la la la. Oh, reste avec moi dans mes bras. Reste avec moi, la 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 la. Dans mes bras. Et qui te quitte, c'est toi ma vie qui m'évanouit. Reste avec moi, oh reste avec moi, reste avec moi, la la la, dans mes bras.
Oui, restez avec moi, mais restez avec nous sur France Inter, parce que là, on va passer donc au deuxième appel, 01 56 40 40 35.
Bonjour à tous. Depuis longtemps, on voit fleurir un peu partout dans la ville où j'habite des panneaux publicitaires, et même pourrir, devrais-je dire. Et il y en a sur le bas-côté de la route, et des fois même j'en vois sur certaines maisons. Je trouve qu'il y en a de plus en plus, et je me demandais s'il y avait une législation dans ce domaine. Merci Denis.
Voilà, donc notre auditrice habite du côté de Reims, et d'ailleurs c'était aussi une question que se posait Yannick Jelin, là, qui est actuellement au théâtre du Rond-Point avec son spectacle Dodo. On n'avait pas pu donc y répondre, et nous avons en ligne Pierre-Jean Delahousse, qui est le président
de paysages de France. Alors l'objectif de cette association, eh bien que le paysage quotidien soit pris en compte, qu'il ne soit pas qu'un support d'activité qui dégrade un patrimoine collectif. La France défigurée, souvenez-vous, il y a 30-40 ans, eh bien ça continue. Faut dire que la loi sur l'affichage publicitaire est extrêmement complexe. Là, on est vraiment dans la France truffée de dérogations. Voilà, plus un bon petit lobbying derrière. Faut dire que l'État a été condamné, ainsi que des annonceurs, pour la 50e fois au mois de décembre. Voilà, et cette association donc s'efforce de faire respecter le code de l'environnement. Donc, il saisit sa justice administrative. Mais c'est des milliers de fois que ça aurait dû être fait. Faut dire que l'affichage publicitaire, c'est quand même du lourd. C'est le troisième média de France. Donc, on va parler à la fois de ces grands panneaux, d'autres panneaux. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup d'illégaux? Faites-nous le point, s'il vous plaît, Pierre-Jean Delahousse.
Alors, si vous voulez, il y a un certain nombre de panneaux illégaux, je dirais quelques dizaines de milliers au minimum, au bas mot. Mais finalement, le problème n'est pas tant là. Il y a d'une part, effectivement, le respect de la loi telle qu'elle existe, mais ce qu'il faudrait avant tout, si on voulait faire évoluer la situation, c'est modifier cette loi. On est en plein processus de Grenelle en ce moment, et dans la phase des décrets d'application, et tout peut se jouer. Donc il s'agit maintenant d'une volonté de la ministre de l'Environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que véritablement on veut faire de cette partie du Grenelle quelque chose qui ne soit pas un échec, mais une avancée? Oui ou non? La réponse, elle est là. C'est très simple, c'est une question de choix politique.
Qu'est-ce qui était inscrit dans le Grenelle?
Alors, il y a la partie législative du Grenelle qui est passée, puisque ça date du 12 juillet 2010. Et en matière d'affichage publicitaire, on ne peut pas parler de grand succès, puisque notamment le législateur a introduit à la dernière minute la possibilité d'installer des bâches publicitaires par simple arrêté du maire, c'est-à-dire des grandes publicités sur bâches. Pour l'instant, c'est absolument pas encadré.
C'est-à-dire que lorsque l'on peut faire des travaux, mettons une entreprise qui fait des travaux, pourra...
Pas du tout, justement. C'est beaucoup plus grave encore que ça. Si c'était que les travaux, on pourrait concevoir, on pourrait admettre qu'en échange, on obtienne des avancées, si vous voulez. Mais c'est pas du tout le cas. C'est sur pignon aveugle tel que ça se précise actuellement. Et encore, dans la loi, rien n'est précisé. Donc on voit qu'on a ouvert une brèche extraordinaire, mais c'est pas la seule. Parce que certains groupes de pression ont obtenu la possibilité de mettre maintenant des panneaux d'affichage publicitaire dans les aéroports, qui sont forcément hors agglomération, dans les gares, dont beaucoup sont hors agglomération, ce qui est, si vous voulez, du jamais vu.
Parce qu'en fait, la règle, c'est bien cela, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre a priori en dehors des agglomérations.
Alors voilà, ça c'était un principe quasiment sacro-saint de loi. Pas de publicité hors agglomération, c'était relativement lisible, simple. Et le Grenelle, qui avait pour objectif d'améliorer, de réduire l'affichage publicitaire, d'améliorer la situation, a abouti finalement à des décisions exactement inverses. On peut rattraper beaucoup maintenant au niveau des décrets, mais c'est justement pour cette raison que nous lançons un véritable SOS à la ministre en disant on va droit dans le mur si on ne prend pas au niveau des décrets les dispositions nécessaires.
Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le chiffre d'affaires de l'affichage en France, c'est 1,13 milliard d'euros, avec trois gros poids lourds, Deco Avenir, CBS, l'américain Clear Channel, ça c'est le gros du marché, plus d'autres afficheurs. Donc on imagine bien que le lobbying fonctionne parfaitement. Je vais vous emmener à Fort-Calquier. Fort-Calquier, c'est la ville des fours à chaud. On est dans les Alpes de Haute-Provence et on va rencontrer son maire, Christophe Castaner. C'était l'ancien siège des comtes de Provence. Ça rayonnait sur l'Italie, la France. Maintenant, c'est une sous-préfecture sur les contreforts de la Durance, pas loin de la montagne de Lure, où on développe des senteurs et des saveurs. Et Christophe Castaner a refusé la publicité donc, sur son domaine public parce qu'il tient à ses paysages. Donc, il se bat avec les décrets qu'il peut.
On mène une politique ambitieuse pour la rénovation de notre patrimoine parce que cette dimension historique nous a légué un patrimoine important. Donc, pour le maire d'une petite commune, c'est lourd, mais bien évidemment, refaire la cathédrale, refaire la façade de notre cinéma qui est une ancienne chapelle, c'est un sujet majeur. Mais quand en parallèle vous voyez fleurir sur le bord de nos routes des panneaux, soit des grands 4x3, soit des sucettes que la mairie elle-même louait à des annonceurs, soit dans les jardins de tout un chacun des pubs pour le supermarché du coin, voire sur des supermarchés qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres, je pense que c'est pas acceptable. Et donc on a voulu mettre de l'ordre et on a d'abord mis un terme au contrat qui nous liait avec un grand groupe de publicité. Donc on a démonté nous-mêmes ces sucettes, on les a installées au service technique en invitant l'exploitant à venir les chercher, ce qu'il n'a toujours pas fait, même si je sais qu'il a assez mal pris les relais médiatiques sur cette décision. Et puis en parallèle, on a négocié avec les particuliers de démonter les 4x3 et toutes les affiches qui fleurissaient partout. C'est un choix esthétique, parce que notre ville en est que plus belle, mais c'est aussi un choix éthique. Je crois qu'après la crise qu'on vient de connaître, on s'aperçoit que l'alpha et l'oméga de la publicité, c'est quelque chose de dépassé. Et que petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut être un homme sans rouler avec un gros 4x4 polluant. Et donc du coup, on travaille sur l'éthique aussi, en même temps que l'esthétique.
Alors Christophe Castaner, donc évidemment, il y a un code qui est très compliqué en ce qui concerne la publicité, et donc les mairies, les communes, etc. Comment on a fait ? C'est-à-dire que ça a été vraiment très frontal, il a fallu dénoncer des contrats, c'était accepté par la population facilement, c'est un gros manque à gagner, je ne m'en rends pas compte. Là.
Alors c'est assez relatif, en fait généralement on échange notamment sur les sucettes la contrepartie de l'installation des sucettes contre l'entretien des abribus dans nos communes. Généralement il n'y a pas de recette particulière et donc du coup effectivement là le groupe en question m'a annoncé qu'il allait venir chercher de toute urgence l'ensemble des abribus de Fort-Calquier qui sont plutôt en mauvais état et m'a menacé de différentes poursuites pour ne pas avoir forcément respecté le cadre de bonnes relations. Ce que je sais c'est qu'on a respecté le cadre contractuel et donc on s'est appuyé sur la loi, à la fois pour mettre un terme à ce contrat, mais aussi pour solliciter les privés. Alors d'abord en discutant, en négociant, en leur disant que ce n'est pas tout à fait légal. Fort-Calquier vient de rentrer dans le parc naturel régional du Luberon. Et cette spécificité nous donne des arguments juridiques pour lutter contre cette pollution visuelle des panneaux. Donc on a utilisé cela. Et quand certains ont décidé de les laisser malgré tout, on a mis en place une procédure. Ils avaient une quinzaine de jours pour démonter les panneaux sous peine d'astreinte au bout de 15 jours.
Ça relève vraiment du maire. C'est l'autorité de...
Oui, il y a une législation. En fait, les maires ne l'utilisent pas. Mais il y a une législation qui nous permet effectivement, en zone urbaine, de lutter contre ces pollutions visuelles. Et quand en plus on est membre d'un parc naturel, régional ou national... on a là du coup un dispositif renforcé qui nous permet carrément d'interdire si on le souhaite.
Alors ça se passe dans Fort-Calquier, se passe avant Fort-Calquier, avant l'entrée aussi ou...
On a mené une attaque sur tous les fronts,
oui.
dans Fort-Calquier évidemment, et avant Fort-Calquier, à proximité de Fort-Calquier. Alors c'est vrai que j'ai été le plus sévère sur la partie intramurose de la ville, mais je compte bien petit à petit m'attaquer à ces publicités inutiles sur le bord des routes. Après, il y a aussi de l'information qui est quelquefois nécessaire sur les hôtels ou sur les restaurants, pourquoi pas. Mais à condition que ce soit de l'information et pas de la publicité que l'on connaît aujourd'hui.
Alors Fort-Calquier n'est pas un cas isolé. Pierre-Jean Delahousse, donc président de Paysages de France, votre réaction ?
C'est un acte tout à fait extrêmement important de notre point de vue, parce que le paradoxe, si vous voulez, c'est que tout le monde se plaint maintenant en affichage publicitaire. Beaucoup de gens s'en plaignent, beaucoup de citoyens partout. Bon. Or, que font souvent les maires ? Ils installent, eux, l'affichage publicitaire sur le domaine public et donc, en quelque sorte, donnent un contre-exemple de ce qu'il conviendrait de faire et, en plus, contre-exemple d'autant plus choquant, je dirais, dans la mesure où beaucoup de panneaux publicitaires, en plus, sont consommateurs d'énergie, ils sont comme ça.
Alors, faut savoir, en fait, que la plupart des panneaux publicitaires se trouvent donc dans le domaine privé, c'est ce qu'on appelle les scellés au sol, ou bien ce sont donc les panneaux muraux, c'est-à-dire les façades aveugles. Qu'est-ce que ça rapporte, ça ? Donc, ça rapporte de l'argent aux propriétaires du terrain, et ça rapporte de l'argent, mettons, à la commune, si elle le souhaite ?
Alors, une petite précision, beaucoup de panneaux scellés au sol, sur pied, sont sur le domaine privé. C'est pour ça que la province est beaucoup plus mitée, beaucoup plus abîmée, beaucoup plus dégradée que Paris, où il y a peu d'emplacements pour mettre des panneaux scellés au sol. Vous arrivez dans n'importe quelle ville de province, chaque fois qu'il y a une maison et un jardin, vous avez une chance sur 3 ou une chance sur 10 qu'il y ait un gros panneau de 12 mètres carrés. Si c'est un lieu stratégique, il y en aura même plus que ça. Donc on en trouve énormément sur le domaine privé aussi. Le fait d'avoir laissé faire pendant des décennies, on parle sans arrêt de législation, sans arrêt de loi, d'appliquer la loi, il faut respecter la loi. Le président a encore rappelé le respect de la loi est intangible il y a quelques jours. Oui, sauf que pendant des décennies, la loi n'a jamais, jamais été respectée en matière d'affichage publicitaire, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre d'infractions extraordinaires. Il en reste toujours beaucoup. Et depuis 18 ans, Paysages de France se bat pour essayer de faire respecter la loi. Il est évident qu'on a pris de telles mauvaises habitudes que certains afficheurs occupent le haut du pavé, et ensuite exercent des pressions pour maintenir en place leur dispositif, en essayant de faire en sorte que les lois leur soient favorables, ou bien en faisant en sorte que les préfets, lorsqu'ils sont saisis, ne répondent pas ou ne fassent rien, parce que c'est le cas. Hein. peux vous citer des dizaines de départements qu'on saisit. On saisit les préfets, le préfet est tenu d'agir, le préfet, parfois même, ne répond pas du tout. Il y a une forme de complicité passive absolument invraisemblable.
Pierre-Jean Delahousse, comment ça se passe dans d'autres pays? Est-ce qu'on est moins laxiste qu'en France?
Alors ça dépend, c'est très très variable. La France est vraiment un des champions toutes catégories en matière d'affichage. Il est vrai que dans les pays du tiers-monde, c'est facile d'ouvrir des brèches parce que on sait comment ça se passe. Et les afficheurs sont assez forts pour s'installer là où il y a des certaines faiblesses.
Non mais mettons en Allemagne, dans les pays scandinaves, est-ce que là on est...
Il y en a presque pas. On pourrait même dire que finalement la prospérité économique d'un pays est presque inversement proportionnelle au nombre de panneaux. Parce que finalement, c'est un signe de misère, ces panneaux partout qui transforment en espèce de zone, de cloaque, des pans entiers du paysage, et du vrai paysage, je dirais. C'est celui où vivent les gens, c'est celui où passent les gens. Parce que si le paysage doit être juste un endroit qu'on peut aller voir une fois par an, quelques jours de congé pour le travailleur méritant, ça n'a plus aucun sens. Le paysage, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est ce qu'on voit, le paysage.
Le président donc de Paysage de France. Et on va terminer notre petit voyage de façon naturaliste. Je vais vous emmener au pays des trognes. Ce sera juste après. Revolver, rien à voir avec le sujet précédent, quoique.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, the TV jail for us, the TV jail for us. Such a drama, such a war, the TV jail for us, the TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. On the old place, some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place, some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
Dans notre agenda, pour terminer cette émission, là c'est notre côté nature, je vais vous emmener du côté du Loir-et-Cher, du côté de Bourset, la maison botanique de Bourset, avec Dominique Mention, qui est un militant de la haie et du bocage depuis très longtemps, qui est aussi un formidable illustrateur naturaliste, et qui vient de sortir aux éditions Ouest France un ouvrage qui s'appelle Les Trognes, l'arbre paysan aux mille usages. Alors les trognes, tout de suite Dominique Mention, bonjour à vous, c'est une manière de faire, c'est pas une essence. Hein.
Bonjour Denis. Ah, c'est pas une essence particulière puisqu'on peut faire des trognes sur presque tous les feuillus et c'est une manière de les tailler notamment toujours à hauteur et toujours au même niveau pour en préserver le bois ou bien le fourrage.
Alors il était véritablement l'allié, on va dire, des paysans autrefois. Aujourd'hui il est quand même pas mal menacé parce que la culture intensive ne supporte pas ce qui n'est pas linéaire. Que deviennent ces trognes aujourd'hui?
Alors les trognes aujourd'hui elles sont à la fois partout encore menacées. Et paradoxalement, il y a une sorte de renouveau qui commence à se faire jour parce qu'on se rend compte que c'est une production durable, c'est une source de biodiversité fabuleuse et puis c'est aussi un patrimoine qui fait partie de notre histoire, de notre culture et de nos paysages ancestraux.
Alors, le mot trogne en tant que tel signifie bien que cet arbre-là est presque un visage, est presque un personnage.
Ah, tout à fait, puisqu'en le taillant à répétition, il y a des bourrelets qui se forment, il y a des cavités, et ça lui donne une allure, avec cette tête de l'arbre qui grossit, vraiment une allure humaine ou une allure animale.
Il sert à quoi, principalement ?
Alors, l'usage principal, je crois qu'on peut le dire, c'est le bois énergie. Ça a été pendant des milliers d'années le fagot et le charbon de bois, et puis après, ça a été aussi beaucoup le bois bûche. Et la deuxième fonction essentielle aussi autrefois, c'était le fourrage, parce que dans beaucoup de régions, notamment toutes les régions de montagne, on avait un déficit de fourrage herbacé, et si bien qu'il était remplacé par le fourrage de feuilles qu'on mettait aussi en fagot au même titre qu'on pouvait faire pour le bois.
On peut avoir des trognes de chêne, de saule, de têtard, de frêne, mais on trouve des traces depuis le néolithique.
Ah, ça, c'est extraordinaire, puisqu'on a des traces de vannerie qui prouvent qu'on taillait les osiers, les saules à hauteur pour faire justement de la vannerie. Et puis, on a trouvé en Angleterre, dans le lit de la Trentne, des trognes qui ont été datées de 3400 ans. On est certain qu'il y a 3400 ans, ces trognes qu'on a retirées de la vase, elles existaient déjà, ça veut dire que c'est une pratique très ancienne.
Aujourd'hui, un agriculteur est un chef d'entreprise, donc il faut utiliser des arguments utilitaires. Qu'est-ce que l'on peut donner comme argument pour garder ces trognes ?
Alors, il y a les arguments, c'est les nouvelles possibilités de valorisation du bois. C'est certain qu'à la tronçonneuse et au bois bûche, c'est un travail qui prend du temps, et les agriculteurs aujourd'hui n'ont plus forcément en plus les appareils qui permettent de brûler ce bois. Et une des solutions, donc, c'est de le broyer, donc c'est des facilités au niveau manipulation, parce qu'on a même des engins qui coupent maintenant directement les branches des trognes, et c'est bien qu'il n'y a plus besoin de les manipuler à la main. Et puis ensuite, ce broyat, il peut avoir deux fonctions, une fonction bois-énergie, avec les chaudières qui s'installent un peu partout, et puis une fonction bois fertile, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté, qu'on peut réinjecter dans les sols.
Qu'est-ce qui vous plaît principalement, parce que vous êtes vraiment tombé amoureux de cette forme d'arbre, de ces différentes essences, depuis déjà très très longtemps. Pourquoi vous êtes intéressé aux trognes ?
Je crois qu'elles m'ont fasciné par leur morphologie quand j'étais petit, vu ma sensibilité d'artiste. Et puis je me rends compte que c'est un des rares exemples dans la relation de l'homme à la nature, où cette relation produit de la diversité, de la biodiversité. Et c'est pas si fréquent pour qu'on puisse le souligner. Et en plus, c'est une source de niche écologique pour tout un tas d'espèces qui, en quelque sorte, remplacent les forêts primaires.
Dominique Mention, quand on rentre dans cet univers de trognes, on rentre aussi dans un imaginaire absolument incroyable, parce qu'ils ont des formes étonnantes, qu'on pourrait trouver cela peut-être dans des forêts bretonnes, dans des forêts imprégnées de légendes.
Ah, c'est un bestiaire de forme complètement inouïe. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que plein d'artistes les ont présentés, depuis Dürer, en passant par Van Gogh et des tas d'autres, si bien qu'on en trouve partout, dans la peinture, dans la gravure, et ça depuis des siècles, voire des milliers d'années.
Les trognes, donc, aux éditions Ouest France. Et puis vous signalez cette semaine un festival qui s'appelle Planète en tête, qui aura lieu dans les Hauts-de-Seine, à Fontenay-aux-Roses, qui est très bien fait, avec entre autres une adaptation de Molière de l'Avare, revisitée pour nous interpeller sur les problèmes liés à la consommation d'eau potable. Donc Planète en fête, c'est à Fontenay-aux-Roses. Merci à Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Fabrice L'Aigle qui réalisait cette émission. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Denis Chessou, avec grand plaisir, je retrouve la semaine prochaine, il y aura Jean-Marie Pelt. Un reportage, on ne sait pas encore où, si c'est le Cantal, la Dordogne, l'Ariège. Et puis, il y aura aussi Nathalie Fontrelle. On est déjà un petit peu en retard. Allez, demandez le monde.